Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous garderons longtemps en mémoire leurs visages portant les marques des masques de protection portés pendant des heures, longtemps, trop longtemps, fatigue, épuisement, mais aussi détermination, attention au service des autres, au service des malades du Covid-19, ces infirmières aux côtés des patients. Toutes ces dernières semaines, leur engagement, malgré parfois le manque de moyens, malgré l'improvisation, la réorganisation, certains gestes appris dans l'urgence, elles ont fait face, malgré le risque infectieux, l'intensité, la violence de l'hécatombe dans certains territoires, elles n'ont rien lâché et ont même formé médecins, dentistes, internes venus en renfort dans les salles de soins intensifs, compétences, bienveillance. Infirmières, si leur profession bénéficie auprès de l'opinion d'une forte considération, l'envers du décor est moins reluisant. Plus de patients, moins de soignants. Gestion comptable de l'hôpital, faible rémunération et pénibilité ont poussé beaucoup de professionnels à quitter le secteur public. La brutalité et le manque de respect ambiant de nos sociétés sévissent également à l'hôpital qui prend en charge la maladie mais aussi la grande précarité. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des infirmières. Infirmières que nous choisissons d'accorder au féminin pluriel. À l'échelle mondiale, 70% des personnels de santé et des travailleurs sociaux sont des femmes. Elles incarnent le soin, à la fois technique et humain, des soins qui nécessitent des moyens et ces besoins, eh bien, ils sont chiffrés. L'OMS, en effet, estime que la planète manque aujourd'hui de près de 6 millions d'infirmières, colonne vertébrale de nos systèmes de santé. Des infirmières applaudies et fatiguées à qui nous donnons la parole aujourd'hui. Notre équipe qui travaille toujours pour une bonne partie d'entre elles à la maison. Didier Bleu en compagnie Didier Chérouse derrière la console technique. Des parcours, des spécialités, des lieux d'exercice différents. Trois infirmières avec nous pour cette émission très loin de Paris. On vous retrouve dans l'océan Indien. Alexandra Velozos Sapereira, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière au service d'urgence de Mayotte. Mayotte, dernier territoire français encore en situation de confinement après le 11 mai. En région parisienne, on va retrouver dans quelques instants Delphine Leclerc, infirmière référente à la consultation de médecine des voyages à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis, deuxième département touché par la pandémie, deuxième derrière le Haut-Rhin où l'on vous retrouve. France, bonjour.
Bonjour.
Infirmière aux urgences de Mulhouse. Et puis pendant cette émission, nous entendrons aussi nos auditeurs infirmiers de Bamako, Bangui, Pointe-Noire ou encore Port-au-Prince.
Priorité santé sur RFI.
Alors, on a entendu ces récits de ces dernières semaines, pas comme les autres, ressentis derrière les applaudissements que l'on entend encore chaque soir à 20h dans les rues de France. On va essayer de comprendre aussi par quels moyens on peut réduire cette fracture, ce fossé qui existe entre l'utilité publique des infirmières et la reconnaissance effective, salariale, hiérarchique, et puis cette fameuse question du respect. On va tout d'abord partir pour l'océan Indien, Mayotte, avec vous, Alexandra Velozos Sapereira. Je disais tout à l'heure, Mayotte, toujours en situation de confinement. Vous travaillez dans l'hôpital du département, le seul hôpital. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation sur place, Covid-19 et autres maladies? À quel type de prise en charge aujourd'hui est-ce que vous faites face?
Alors effectivement, en ce moment, on fait face à une montée en puissance des patients atteints de Covid-19, sachant qu'on fait face aussi depuis janvier à l'épidémie de la dengue, qui compte officiellement aujourd'hui 3684 cas. On a 16 décès de personnes de la dengue aussi, dû gérer bien avant que le Covid arrive à nos portes une grande épidémie déjà.
Est-ce que vous vous sentez, vous, en sécurité par rapport aux risques infectieux? Je parle du Covid-19, où aujourd'hui vous avez les moyens suffisants pour vous protéger?
Aujourd'hui, on a les moyens suffisants pour nous protéger. Effectivement, on a eu peur un petit peu au début. On a eu affaire à quelques vols, mais la situation s'est résorbée et pour le moment, en tout cas, on a tout ce qu'il faut au niveau du matériel de protection.
Alors, pour se donner une idée, à Mayotte, hein, on compte 80 médecins pour 100 000 habitants, 324 en métropole, c'est 4 fois plus. Est-ce que cela se ressent dans l'état de santé de la population de Mayotte? Est-ce que vous diriez qu'il y a un déficit de prise en charge sanitaire? Est-ce qu'ils ne sont pas bien soignés, ces personnes qui arrivent chez vous à l'hôpital?
Alors, je ne dirais pas qu'ils sont pas mal soignés, pardon. Par contre, effectivement, il y a l'égalité d'accès aux soins n'est pas présente entre les différentes régions de métropole et Mayotte. Il y a très peu de médecins de ville. Le système de santé de Mayotte se repose sur un seul et unique hôpital et quelques dispensaires qui sont sur les points stratégiques de l'île. Donc effectivement, l'accès aux soins n'est pas le même, est complètement inégal par rapport à celui de la métropole.
Alors justement, on va aller en métropole dans l'est de la France précisément. À Mulhouse, où vous exercez, France, hein, oui. Sur la carte sanitaire Covid-19, Mulhouse, c'est toujours en zone rouge. On vous avait donné la parole le 25 mars dernier dans Priorité Santé. On était alors au pire de l'épidémie, hein. Alors oui. Expliquez-nous, France, comment ça a évolué depuis aujourd'hui? Ça se passe comment à Mulhouse?
Alors effectivement, courant mars et encore début avril, il y a eu une forte vague de patients Covid. Là actuellement, on reçoit peu de patients qui viennent pour le motif Covid. Et il y en a quelques-uns, mais très peu. C'est vraiment une minorité. Notre activité des urgences a bien repris, elle, actuellement.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez repris les opérations, la prise en charge du suivi, par exemple, de certains patients atteints de maladies chroniques?
C'est ça, tout à fait.
Mais en maintenant toutes les mesures de sécurité propres aux risques infectieux, par exemple, je pense bien sûr à toutes ces protections matérielles, masques, surchaussures, blouses, comment ça se passe?
Oui, tout à fait. En fait, tous ces gestes, ces précautions... Et ce matériel est préservé. Hein. Il se peut qu'il y ait des patients qui viennent pour des motifs autres que du Covid et qui seraient porteurs de ce virus. Donc on maintient les protections nécessaires. On porte toujours des surblouses, des masques, des charlottes, des gants. Voilà, l'équipement n'a pas changé.
Alors, on le sait, hein, depuis hier, le 11 mai en France, le confinement a été levé. Ça concerne l'ensemble du territoire, y compris les zones rouges, y compris donc la région parisienne et cette région du Grand Est qui a été l'un des principaux foyers de cette épidémie. Est-ce que vous craignez aujourd'hui une deuxième vague, comme on peut parfois en entendre parler, ou vous êtes relativement sereine face à ce risque?
Ah non. On est effectivement très craintif quant à une nouvelle vague. Effectivement, ce qu'on a vécu lors des premières vagues, comme on dit, a été tellement marquant, difficile, que là, en fait, le fait que le confinement soit levé, ça réveille en nous une certaine peur. Et voilà, on est dans la crainte au jour le jour, en disant, voilà, est-ce qu'on aura une nouvelle vague? On est là, s'il y en a une, on essaiera d'y faire face. Comment, je ne sais pas, puisqu'on est encore épuisé. Ça va être compliqué, mais effectivement, la peur est là au quotidien.
L'hôpital militaire de campagne qui avait été installé sur le parking de votre hôpital, il est toujours là?
Alors, l'hôpital de campagne est toujours là, mais il se va entendre qu'il va quitter Mulhouse pour rejoindre Mayotte.
Ah, donc ça concerne directement notre autre infirmière. Alors, j'ai une question que je vais poser à chacune d'entre vous, hein, face à cette crise. On a entendu le branle-bas de combat, la réorganisation, la capacité à la fois d'adaptation et d'inventivité des personnels soignants qui, on va dire, repris le pouvoir à l'hôpital. Est-ce qu'il y a, France, des actes, des pratiques que vous n'aviez jamais expérimentées avant, des choses que vous ne saviez pas faire et que vous avez appris sur le tas pendant cette crise?
Ce qu'on a appris sur le tas, c'est à devoir s'organiser rapidement, à être maniable, puisqu'en fait, on s'est retrouvé face à quelque chose d'inconnu. Et il a fallu justement être opérationnel tous les jours, à s'habituer à quelque chose qu'on ne pouvait pas s'habituer, à être manié au quotidien. Après, les gestes, en soi, On les a connus auparavant, on les connaissait auparavant, c'était, que ce soit des prises de sang, les gestes par rapport à l'intubation et autres, c'est des choses qu'on a déjà pratiquées, mais pas aussi massivement.
Et est-ce que ces gestes, ça changeait quelque chose de travailler, on peut le dire, c'est pas du tout faire acte de faiblesse, en ayant un petit peu peur, en ayant des craintes pour sa propre santé, est-ce que ça change la pratique des soins?
La pratique du soin, elle change pas. Les protections, on les met en place, clairement, puisqu'on a peur pour nous, c'est sûr. On a peur pour notre famille, on a peur pour les patients. La peur, elle venait du fait que certains patients pouvaient avoir notre âge. Il y avait des jeunes. Et là, effectivement, ça reflétait en nous quelque chose. Et cette peur était présente. Mais oui, les équipements, on ne les a pas quittés. Hein. Et encore maintenant, on les maintient.
Et du côté du travail, avec les autres membres du corps des soignants, des médecins, est-ce que ça a bouleversé certains rapports hiérarchiques? Est-ce que vous avez découvert des relations inédites jusque-là?
Alors, dans notre service, on a une très bonne relation entre médecins et paramédicaux. Mais effectivement, durant cette période, je pense qu'il y a eu un renforcement de ce lien, même entre nous tous. Hein, c'est ce qui nous a fait tenir. Il y a eu l'adrénaline, on est d'accord, mais le lien, on a vécu quelque chose de difficile. Et le fait de se serrer les coudes dans cette période, ça a renforcé le caractère humain et les relations entre le personnel, effectivement.
Alexandra Veloso-Sapereira, on a souligné tout à l'heure la situation sanitaire complexe à Mayotte. Bien sûr, il n'y a pas cette vague qu'a connue par exemple la région de Mulhouse, hein, on doit le souligner. C'était de là qu'était partie une partie de l'épidémie après un rassemblement religieux. Comment est-ce que vous voyez ce qu'ont vécu justement vos consoeurs de métropole, cette espèce de période effroyable, incroyable, mais en même temps, certains parlent d'une période d'une certaine manière aussi stimulante parce qu'on a connu, on a traversé des choses inédites à l'hôpital.
Alors, je pense que ça nous a rassurés de savoir que nous, on était en retard par rapport à l'épidémie, ce qui fait qu'effectivement, on a pu mettre en place des choses qui nous ont rassurés. C'est-à-dire que nous, on savait qu'on allait possiblement devoir faire des soins qui ne relevaient pas de notre compétence au quotidien. Du coup, l'hôpital a mis en place des espèces de formations pour nous rassurer, pour qu'on refasse les gestes. Donc, ça nous a bien rassurés, en fait. On avait peur pour eux, on avait peur de ce qui... On a toujours peur de ce qui risque de nous arriver, sachant que c'est en train de bien s'accélérer en ce moment chez nous. Mais quelque part, le fait que d'autres soient passés par là, ça nous rassure.
Ça veut dire qu'on peut surmonter l'épreuve. Alors bien sûr, on va parler de vos conditions de travail, de vos attentes. Et puis on va également donner la parole à nos auditeurs aujourd'hui, auditeurs et auditrices qui exercent cette même profession, parcours et questionnement d'infirmières du monde entier. On va d'abord donner la parole à Ismène de Pointe-Noire, au Congo.
Bonjour, je m'appelle Ismène, j'ai 23 ans. J'aime le métier d'infirmière parce que lorsque je partais à l'hôpital avec mon père, en voyant ces infirmières, ces docteurs en tenue, ça me faisait vraiment plaisir. Et de surcroît, mon grand-père aussi, c'était un docteur. Et du coup, quand je le voyais en tenue exercer son métier, ça me faisait vraiment beaucoup plaisir. Alors je me suis dit que je dois exercer ce métier parce que c'était le mot beau. Tu rends des services à des gens qui sont malades, ça fait vraiment plaisir. Mais ce qui me fait tellement peur, c'est juste que lorsque tu ne seras pas capable de pouvoir soigner une personne, de pouvoir tuer une personne, et du coup, c'est ce qui me culpabilise plus. Et je souhaite vraiment que vous puissiez m'aider, à procurer des conseils pour être une bonne infirmière, afin que dans ma carrière, je ne puisse pas commettre des erreurs et que je sois témoignée comme des grandes infirmières, des grands médecins dans ce monde.
Alors, un beau métier, mais aussi la... faire face à toutes ces responsabilités pour cette jeune infirmière Ismène, elle a envie de bien faire et c'est une question que je vous soumets à chacune d'entre vous. D'abord vous, Alexandra Veloso-Sapereira, qu'est-ce qui fait une bonne infirmière?
La capacité de se remettre en question, je pense.
Cette adaptation.
Oui, cette adaptation, le fait de toujours se demander si on fait bien, si on fait correctement et puis savoir demander de l'aide quand on ne sait pas.
Et pour vous, France, c'est quoi une bonne infirmière?
je ne suis pas sûre qu'il y ait une définition très propre à dire d'une bonne infirmière. On peut avoir des traits de caractère complètement différents et être, je pense, une bonne infirmière. Après, il faut savoir rester soi-même. Et après, de la responsabilité, clairement, il y en a. On est face à des sœurs, on est face aussi parfois à des erreurs. Mais comme disait la collègue, faut savoir se remettre en question. Et je pense que rester soi-même, ça peut être une belle qualité aussi.
Ça veut dire aussi garder au premier chef l'humanité dans le métier. C'est quelque chose qui est sans cesse souligné. On a réussi à vous rejoindre, Delphine Leclerc. Bonjour.
Bonjour, bonjour, excusez-moi.
Il n'y a pas de souci.
Je suis la moins loin et je suis la plus difficile à avoir sur Robert Duvier.
Des fois, c'est difficile. C'est difficile, mais en tout cas, on est content de vous avoir. Moi, je vais vous demander simplement, vous exercez en Seine-Saint-Denis. Vous aussi, vous êtes en zone rouge, hein, comme nous à Paris. Comment aujourd'hui ça se passe et vous êtes passé par quoi ?
Oh, bah, par toutes les couleurs, hein, excusez-moi, mais effectivement, alors déjà, je suis ravie pour cette journée. Je salue mes collègues, en tous les cas, qui sont partout dans le monde. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Et effectivement, ici, on a vécu en Île-de-France, comme à Mulhouse, comme Mayotte, voilà, des difficultés. Forcément, là, tout est remis en question. L'hôpital est remis en question, la structure de l'hôpital, notre fonction, en l'occurrence, notre fonction d'infirmière. Moi, ça fait 30 ans que je l'exerce. Donc, effectivement, à travers qu'est-ce qu'est une bonne infirmière, je ne sais pas. En tout cas, vous avez employé le terme, c'est l'humanité. C'est vrai que avec ce Covid qui est arrivé, je ne me suis même pas posé la question. Aujourd'hui, je suis dans une structure qui n'est pas du tout la même que celle où j'exerce tous les jours, qui est un confort. Tout a été repensé, reconstruit dans un délai très très rapide. Et donc tout mon métier, en l'occurrence là, l'infirmière, prend son sens. J'ai fait l'Afrique, j'ai fait beaucoup de missions, j'ai été dans des difficultés énormes, et là aujourd'hui, ça a chamboulé beaucoup de choses. Un état de stress, c'était anxiogène en l'occurrence. Là, au bout de 2 mois, on commence déjà un peu à retrouver ses marques, mais on a vécu des difficultés. Alors moi, pas la première, hein, bien évidemment, hein, quand je dis moi, c'est l'ensemble des métiers, le retour en salle, où là, les infirmières, je leur ai demandé leur ressenti. Ça a été fermé des housses pendant 2 mois. Ça a été compliqué de ne pas savoir ce qu'étaient devenus les patients qui ont été...
Quand vous dites fermé des housses, hein, pour que les auditeurs comprennent, ça veut dire que les patients étaient décédés.
J'ai eu cette impression de revivre ces années SIDA où, en 92, on accompagnait des gens à mourir constamment là. Il n'y avait même pas le temps de les accompagner.
Vous n'aviez jamais été confronté à une telle hécatombe, on peut utiliser ce terme,
non,
ou c'est exagéré?
Non, j'ai eu cette expérience du VIH, j'ai eu l'expérience du H1N1, d'Ebola, cette expérience-là, non, aussi vite, aussi rapide, et tout est restructuré rapidement, du jour au lendemain, les choses changent.
Il y a eu cette réorganisation très rapide, mais vous, en tant que praticienne, qu'est-ce que ça a remis en cause? Qu'est-ce que ça vous a montré?
Ça m'a montré que voilà, être infirmière, voilà, c'est on n'oublie pas, enfin voilà, moi, c'est les fonctions que j'ai faites là depuis 2 mois ne sont plus celles que je faisais depuis quelques années. Hein, je suis responsable d'un centre de vaccination et je suis devenue sexologue et je me suis retrouvée à faire des PCR, donc des prélèvements, à m'occuper, je faisais un peu office, j'étais une des peut-être privilégiée aussi, hein. J'étais pas en salle, parce que en salle, ça veut dire en secteur hospitalier, dans les services, j'étais pas en réanimation. On m'a mise j'allais avoir, on va dire, une fonction au plus proche quand même d'être dans l'utilité. Moi, faire de la réa, ça fait 25 ans que j'en ai pas fait. J'aurais peut-être été plutôt un boulet que d'être aidant. Donc, effectivement, on nous a... Mais l'hôpital a très, très vite, rapidement... Et c'est ça, en fait, les infirmières se sont retrouvées... je vous dis, moi, j'ai peut-être été... j'ai fait autre chose. Là, je suis aujourd'hui dans le Covid-San, dans un secteur qui est d'aller vers le chercher, hein, les cas index, les cas contacts.
Pour les isoler.
pour les isoler, voilà, c'est quelque chose, on apprend tous les jours, c'est différent, on se pose plein de questions, hein, Covisan ne sont pas les brigades, hein, c'est autre chose, hein, on est une équipe mobile où on va aller vers l'autre, aller dans les foyers migrants, aller dans les foyers, dans les squats, chercher les cas index, les cas contact, tout ça, donc effectivement, tous les jours, on doit complètement réimaginer, voilà, mais la tension...
Est-ce qu'on entend bien, Delphine Leclerc, c'est que même avec 30 ans d'expérience derrière soi, eh bien, on apprend encore tous les jours. Alors, justement, on va s'interroger sur l'origine de l'engagement. Infirmière fait partie de ces professions comme enseignant ou médecin où l'on emploie souvent, on entend hein, l'expression vocation. C'est le cas pour Abdoulaye. Ouais. Il est infirmier à Bamako, au Mali.
Bonjour, RFI. Je suis Abdoulaye Siliwe, infirmier d'État depuis 6 ans en service de réanimation. C'est mon père qui m'a donné envie de faire ce métier. Quand j'étais petit, je le voyais soigner les voisins et les autres enfants. Il était très respecté et ça m'a donné envie de faire la même chose. Le plus difficile dans ce métier est d'être souvent face à des patients qui n'ont pas assez de moyens pour subvenir à leurs besoins. Donc nous sommes obligés de prendre contact avec les services sociaux, essayer de voir ce qu'on peut faire pour eux. Chose qui ne voilà, qui relève pas de notre domaine de compétences, mais on est obligé de le faire. Par ailleurs, je suis très 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 émerveillé par les témoignages de certains de nos patients guéris, voilà, qui nous encouragent et qui ne cessent de nous raconter leur vie quotidienne après la maladie en service de réanimation. Chose qui nous permet de tenir les caps vraiment et d'essayer d'aller en avant.
Un métier qui procure du bonheur à Abdoulaye, un métier choisi dès l'enfance. France, est-ce que vous vous souvenez, vous gardez en mémoire, ce qui vous a fait embrasser cette profession?
Pour tout vous dire, quand j'étais petite, tout ce qui était blouse blanche, j'en craignais, je pleurais, j'hurlais.
Vous avez conjuré votre peur.
Oui, il y a quelque chose comme ça. On était à 4-5 à me tenir pour...
pour une piqûre. J'ai connu ça.
Non, moins que ça, juste m'ausculter. Ça a évolué avec le temps, effectivement. C'était une profession que j'admirais. Et je me suis dit, ben ouais, allez, c'est tout moi, en fait. Aller prendre soin des gens, être à l'écoute, et un petit peu de folie, à leur apporter un peu de l'humour dans ces périodes qui sont parfois difficiles quand ils viennent dans les hôpitaux. Je me suis lancée dans cette carrière. C'est un métier que j'aime beaucoup. Mais j'aimerais juste qu'on nous donne les moyens d'exercer correctement, c'est tout. Après... On pourrait, hein, faire quelque chose pour nous. On l'attend.
On va en parler. Et vous, Alexandra Velozos, ça Pereira, comment est-ce que vous avez choisi d'endosser cet uniforme? La blouse et côté chaussures, c'est quoi? Des sandales en plastique, des sabots? Comment
des
est-ce
baskets.
Que vous avez... Des baskets. Alors, comment vous avez choisi de devenir infirmière? À quel moment de votre vie?
Oula, alors ça va être un petit peu récrié par certains, mais... Pour le coup, je pense que pour moi, vocation, ça s'applique. Je pense que je vais être infirmière depuis que j'ai 6 ans.
Voilà.
Et j'ai tout fait pour pouvoir l'être, quoi. Il n'y a pas vraiment de moment clé. Aussi loin que je me souvienne, c'est le métier que je vais faire.
C'est comme quand on rencontre un enfant à l'école primaire, qu'on lui dit quel métier tu veux faire. Vous n'avez pas dérogé, ça a toujours été
Exactement.
Infirmière.
Sur les petits morceaux de papier, quand les professeurs nous demandaient quel métier on voulait faire plus tard, ça a toujours été ça, ouais.
Bon, ben fidèle à votre intuition. Notre auditeur, il le dit, hein, Delphine Leclerc, il est professionnel du soin, mais il est également agent du lien social, surtout quand on est dans des zones de grande précarité. Bien évidemment, beaucoup de nos auditeurs le sont. Vous aussi, en Seine-Saint-Denis, justement, il y a à la fois le côté soignant, aidant, écoutant.
Oui, on est complètement là-dedans. Et puis, effectivement, le fait de moi je parle pas non plus de vocation, mais je dirais que c'est quelque chose qui est inscrit complètement en moi, c'est-à-dire que je ne me serais jamais vue faire d'autres choses, un autre métier, et c'est vrai que, et aujourd'hui il prend vraiment tout son sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, les moyens, on fait avec ce qu'on a depuis 30 ans, moi je passe mon énergie auprès des autres, c'est vrai que j'ai eu cette chance de pas mal voyager, là je suis aussi dans une structure de minorité, précarité, où là on est vraiment on est vraiment dans le cœur de la précarité, avec les migrants, avec ce flux migratoire, ces violences, parce qu'il y a aussi ça, il y a autre chose que le Covid, il y a aussi toutes ces violences qui ne se sont pas arrêtées. Donc effectivement, je répondrai, moi c'est pareil, c'est dans l'enfance, ce choix des blouses blanches, ces odeurs qui restent toujours, et puis toujours cette envie le matin d'aller bosser. Et aujourd'hui, je travaille, j'ai jamais autant travaillé, je travaille entre 10 et 12 heures par jour, parce que voilà, on est là à l'heure, on est toujours là à l'heure, on est toujours. Et c'est cette importance de travailler ensemble. Moi, je suis plus du tout sur l'hôpital Avicenne, mais régulièrement, je prends des nouvelles de mes collègues. Avant, je savais que cette émission-là, je leur ai dit, vous me dites, surtout si vous avez des messages à faire passer.
Porte-voix.
Mais oui, parce qu'effectivement, moi, mon vécu de 30 ans, je suis pas peut-être plus militante, mais voilà, je passe mon énergie beaucoup plus au sein d'une communauté je suis pas dans la rue, je suis rarement dans la rue, parce que effectivement, et je permets aux infirmières de l'être. Voilà, je suis souvent réquisitionnée parce que les infirmières vont manifester, donc je permets tout cela, mais j'ai manifesté en 96, je fais partie aujourd'hui, je suis vraiment sur le terrain, comme les infirmières le sont toutes. Et puis, la fatigue, on se ressent, mais on se reprend et on se ressource. Ce qui est important dans notre métier, c'est d'avoir des ressources et en tout cas d'avoir un moment où on va décrocher. C'est-à-dire, je suis capable, même encore dans ce moment de pandémie, j'ai posé ma blouse, j'ai posé mon téléphone professionnel et je passe à autre chose.
Pour pouvoir reprendre et ne pas tomber dans l'épuisement. En tout cas, on parlait tout à l'heure de ce fossé entre la reconnaissance matérielle et l'estime publique. C'est une vraie question, avec toujours des termes très positifs associés à votre profession, l'empathie, l'aide, le courage, la vocation. Un témoignage, un nouveau témoignage, c'est Franklin. Il exerce à Bangui, en République centrafricaine, et on va l'entendre, il y a tout cela dans son message.
Je pense que quand j'étais en classe de terminale, j'étais encore dans l'escoutisme, nous avions une formation de secourisme et on nous a appris à secourir, on nous a appris à aider les gens qui souffrent, on nous a appris à sauver des vies. Après avoir obtenu mon bac, je suis allé à l'université et j'ai passé le test. Par la suite, je suis devenu infirmier et voilà, aujourd'hui je continue à travailler comme infirmier. C'est être infirmier est ma vie. Être infirmier me donne beaucoup de courage, me donne beaucoup de l'empathie par rapport aux autres qui souffrent afin de les aider. Un jour, il y avait un enfant à l'âge de 5 ans qui est sur le point de mourir. C'est un enfant qui souffrait de malnutrition aiguë sévère. Il est entré dans un coma stade 3 et du coup, après avoir passé 10 minutes de réanimation, la réanimation a été soldée par un succès. Aujourd'hui, l'enfant est vivant. Je continue même à demander à la maman de l'enfant de venir à l'enfant à l'hôpital. Quand je vois l'enfant, ça me donne beaucoup de plaisir. Ce qui est un peu difficile, c'est que le plateau technique de l'hôpital n'est pas adéquat pour nous permettre de bien exercer ce que nous avons appris à l'école. Aujourd'hui, je travaille pour MSF. Et à l'MSF, nous avions des matériels appropriés, des matériels adéquats. La zone où je travaille en ce moment, c'est une zone où il y a toujours de l'insécurité. Et voilà, je suis engagé pour venir ici travailler afin de sauver la vie de mes compatriotes qui souffrent. Donc, il ne faut pas laisser la peur te dominer. Et toujours le courage d'aller là où il y a les besoins, là où il y a ceux à qui tu peux penser qu'ils ont besoin d'aide afin de pouvoir les aider.
RFI à Bangui, 99.8 FM.
Infirmier humanitaire en République centrafricaine au péril de sa vie, garder le contact aussi avec des patients. On entend chez Franklin la compétence, mais aussi une forme d'engagement émotionnel. Alexandra Veloso-Saperera, réaction après ce témoignage, est-ce qu'il y a des rencontres, des soins, des moments qui marquent ?
Oui, il y a des moments qui marquent, mais je pense tout au long d'une carrière, hein, effectivement, de contribuer à sauver une vie, ça marque. De trouver des solutions pour des personnes qui n'en ont pas, ça marque. Ici à Mayotte, il y a plus de pauvreté qu'ailleurs, j'ai envie de dire. Mmh. Et effectivement, parfois, de perdre entre guillemets un petit peu de temps pour trouver des solutions qui peuvent être simples, mais que les personnes n'ont pas à leur portée, bah ça fait du bien.
Ça fait du bien. On en sort aussi renforcé d'une certaine manière, ce contact avec les patients. Oui. Mais on l'a dit aussi, hein, des conditions de travail parfois extrêmement éprouvantes, comme ce que vous venez de traverser à Mulhouse, France. Oui. Quand on s'était parlé il y a 2 mois, vous nous disiez parfois que vous pleuriez. Il y a eu la vague. Aujourd'hui, vous continuez. C'est quoi votre état d'esprit? C'est quoi votre attente aujourd'hui?
Notre attente par rapport au gouvernement ou...
Par rapport à vos conditions de travail. Les deux sont liés, en fait, hein.
Alors déjà, par rapport à nos conditions de travail, déjà, on aimerait un respect, juste un respect de la population. Mmh. Là, durant le Covid, on a été applaudis tous les jours, mmh. Merci. Mais le respect doit être au quotidien. Mmh. Là, notre activité autre que Covid a repris, on se fait insulter, il y a de la violence qui a repris. Voilà, c'est dommage. Lorsqu'on a besoin de nous, les gens sont reconnaissants, mais on aimerait qu'ils soient tout au long. C'est pas normal de subir ce genre de choses-là.
Après le choc du Covid, France, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous acceptiez hier, aujourd'hui, c'est plus supportable?
Je pense la violence, les insultes, les injures, c'était déjà pénible avant, mais là encore moins, puisqu'on se dit, attendez... On nous applaudissait, vous aviez besoin de nous, on nous a considérés comme des héros, comment du jour au lendemain, on peut nous sous-estimer à nouveau, et c'est ça qui est rageant en fait.
Est-ce que vous avez eu besoin, France, d'une aide psychologique pour faire face?
Alors, on nous a mis en place des cellules de crise, on nous a permis d'en discuter. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir des collègues en or, et avec lesquels, pour certains, on s'est réunis après le travail, juste l'histoire de grignoter un bout ensemble, de discuter. On a pu évacuer comme ça, on s'appelait à la maison, tiens, comment ça va, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, comment tu le sens, comment... Voilà, on prenait soin de chacun, les uns les autres, de nos ressentis, et je pense que ça aide beaucoup. Après, chacun, à sa manière, a besoin d'en parler, d'évacuer, mais moi, ça a été la mienne. Moi, j'ai besoin de parler à mes collègues et voilà, de m'exprimer et d'évacuer toutes ces choses-là.
Alors, vous restez en ligne, hein, mesdames. On va se retrouver dans quelques instants, une petite pause en musique avec Ketranada sur RFI 10%. Petite respiration, c'était Ketrana sur RFI, priorité santé, journée mondiale des infirmières, parole aux soignantes et aux soignants. Tout à l'heure, on a entendu Abdoulaye témoigner de son attachement, ses souvenirs qui ont marqué durablement son parcours. C'est le cas aussi pour Agnag, elle est infirmière en Haïti, où elle exerce, on peut le dire, dans des conditions très difficiles, voire parfois impossibles.
Bonsoir à toute l'équipe de Priorité Santé, ainsi que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment. Je suis Miss Florent Villania, originaire d'Haïti, infirmière depuis 7 ans. Des souvenirs, j'en ai beaucoup. Je préfère de vous parler de celui de la néonatologie, d'un prématuré de 26 semaines qui était admis sur mon chiffre de travail. Celui-là méritait beaucoup de soins, d'attention et d'une certaine compétence particulière, puisqu'il présentait constamment des périodes d'apnée. Son état était toujours critique. Ce qui paraît extraordinaire pour moi, c'est parce qu'en Haïti, il n'y avait pas vraiment cette spécialité. Avec le peu qu'on a, on arrive à sauver un prématuré de 26 semaines en Haïti après 56 jours d'hospitalisation, de combat. Il n'était pas le seul, mais cela a rendu très fiers les parents, les médecins, ainsi que nous les infirmières. On trouve tous les jours des raisons pour lesquelles on ne veut plus pratiquer et changer de profession. Parce qu'avec un salaire dérisoire inférieur à 150 $ US par mois pour 168 heures fournies, ça ne peut pas répondre à mes besoins. Il y a deux choses qui sont difficiles pour moi. Mon chef n'arrête pas d'augmenter mon travail. Il m'oblige à faire des tâches qui n'étaient pas sur ma responsabilité. On est souvent mal mené, mal compris et sans aucune considération.
Des jours de combat, la fierté, et on l'entend, hein, on va le dire, un salaire de misère, le sentiment d'utilité, moins de 200 euros par mois hein, pour cette auditrice, Agnag, infirmière en Haïti, France. Comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage? Investissement total pour sauver des vies, mais quelle reconnaissance en échange?
Nous la cherchons tous les jours, hein, la reconnaissance qu'on a actuellement, c'est la satisfaction des patients. Ceux qui arrivent à nous dire merci et qui nous disent oh, vous êtes si courageux de faire ce métier. Et ouais, je pense que c'est la seule satisfaction qu'on a actuellement et reconnaissance, on va dire, puisqu'au niveau du gouvernement, on est bien loin d'être dans la satisfaction.
Vous avez l'impression que ce sont un petit peu des promesses en l'air, justement. On se disait le 25 mars, quand on s'était parlé, c'était justement, par hasard, le jour où le président Macron était venu vous rendre visite à Mulhouse. On a annoncé un plan. Depuis, on attend. Vous attendez quoi?
On attend clairement une revalorisation de salaire. Une prime, il en a parlé, effectivement, c'est bien pour marquer le coup, on va dire. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une valorisation de notre salaire. Parce que là, effectivement, on est loin des 200 dollars
mensuels, oui, dollars, euros mensuels, voilà. Effectivement.
De la collègue, on n'en est pas là, effectivement. Mais le coût de la vie chez nous est peut-être un peu plus élevé aussi, je ne sais pas. Mais peu importe, nos salaires ne sont pas valorisés à la juste valeur. On a des responsabilités qui sont énormes, qui sont grandissantes. Et aucunement en lien avec ce qu'on peut gagner chaque mois. On travaille dans la pénibilité, on travaille le week-end, les jours fériés, les nuits.
Et on l'a constaté ces dernières semaines, en plus vous prenez des risques. Est-ce que ça veut dire, Delphine Leclerc, que sans arrêt il faut jongler sur plusieurs tableaux, négocier entre sueur, larmes, sourire, ou c'est exagéré, ce n'est pas si dramatique, où il y a vraiment des moments de grande tension? Delphine Leclerc, est-ce que vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis là, vous m'entendez?
Oui, on vous entend très bien.
Non, les grandes tensions, oui, alors on compare, parce qu'on ne veut pas comparer notre travail ici en France et celui que moi je connais en Afrique ou Haïti ou ailleurs. On ne compare pas. Moi, j'ai appris à travailler justement là-bas. Mais effectivement, mais tous les jours, c'est un combat pour du matériel, c'est un combat avec nos supérieurs. Ça l'est moins avec les médecins. Il y a, moi, depuis de nombreuses années, effectivement, où on était, on faisait les prescriptions et puis... rarement notre vie, les choses ont changé, heureusement la profession a évolué. Aujourd'hui il y a des staffs et les infirmières sont au cœur de ces staffs. En tout cas nous en Ile-de-France, on nous demande notre avis. Il y a un travail de binôme avec les médecins, ça a énormément changé. Le combat, bien évidemment, nos salaires, alors forcément ils sont dérisoires, forcément par rapport à la fonction, mais effectivement on sait depuis le début qu'on va travailler les week-ends, les jours fériés, qu'on a des postes et maintenant on est polyvalent. Hein, aujourd'hui on est en infectieux, demain on peut être en cardiologie. Mmh. Alors forcément il y a des postes qui sont plus... protégée, et moi j'en suis une des premières parce que je fais des protocoles de coopération, donc c'est très, c'est légiféré, c'est protocolisé, donc je suis en infectieux, j'ai cette chance de pas bouger, mais moi je pense effectivement aux infirmières qui sont en province, qui n'ont pas les mêmes façons de travailler, mais effectivement c'est un combat de tous les jours.
Et on le constate depuis le début de la crise sanitaire qui n'est pas finie. La reconnaissance de la population, elle est bien là, même si, bien sûr, il y a eu des comportements absolument inqualifiables de personnes qui ont dénoncé leurs voisines infirmières, aides-soignantes par crainte de l'infection. En tout cas, ces choses-là, on voudrait les oublier. Il y a les messages, on a reçu des messages sur la page Facebook de l'émission. Nelly, auditrice en République démocratique du Congo, elle nous écrit « Sans eux, que seraient nos vies ? Ils sont indispensables. » Moustapha du Sénégal qui vous adresse cet hommage. « Tout ce qu'on pourra dire ne représentera même pas un centième de leur remarquable travail, surtout dans le contexte de pandémie. Les applaudissements, on a envie de dire. » Mais après, c'est toute la question. Delphine Leclerc, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, instaurer des quotas patients-soignants, temps de soignants par infirmière ? Est-ce que c'est une solution ?
Alors, tant de patients, oui, déjà, il y a des quotas. Alors, ça, c'est sûr, c'est une infirmière pour six patients, et effectivement, c'est pas du tout le cas. On est pour une infirmière en salle, pour 10 patients. Donc, effectivement, là, oui, puis ça dépend. En réanimation, on peut pas prendre pareil qu'en charge que dans certains services qui sont plus lourds. La rééducation, forcément, va pas demander les mêmes compétences. Le service, voilà. Donc, effectivement, je crois qu'il faut, c'est cas par cas, service. Et les hôpitaux, bien évidemment, de l'assistance publique ne sont pas... à Mulhouse, parce que là, c'est Mulhouse qui est représenté ici aussi en France, n'a pas les mêmes moyens. Et c'est vrai qu'il faut légiférer tout ça. Il faut donner le même salaire aux infirmiers en province qu'en Île-de-France. Mm-hmm. Mais tout ça, j'espère qu'une chose, c'est qu'effectivement, les paroles politiques vont avoir un après. C'est-à-dire que ce n'est pas des belles paroles qu'on nous donne aujourd'hui. Vous êtes les seuls à RFI, là, à nous souhaiter aujourd'hui une belle journée des infirmières. On l'a déjà pratiquement oublié, on nous applaudit beaucoup. On nous applaudit plus, même si effectivement c'était un symbole, c'était symbolique. Mais effectivement, cette violence va revenir. Effectivement,
on l'avait fait aussi l'année dernière à la Journée mondiale des infirmières. Je peux vous garantir qu'on le fait tous les ans.
On le fait tous les ans.
Là, c'est parce qu'on les connaît, nos infirmières. Alexandra Veloso-Sa Pereira, peut-être en termes de conditions de travail, parce qu'en termes de rémunération, à Mayotte, vous bénéficiez d'une revalorisation spéciale. Alors, tout à l'heure, on a entendu dans un témoignage l'expression « envie de baisser les bras ». Est-ce que c'est un sentiment qui vous a parfois traversé l'esprit ?
Alors, je n'ai pas envie de baisser les bras. À Mayotte, non.
Non.
Je crois pas. Mais après, voilà, moi, ça fait que un an et demi que je suis à Mayotte et je découvre encore tous les jours. Alors, des fois, oui, c'est un petit peu compliqué face à la culture. Des fois, on a envie de baisser les bras concernant peut-être l'éducation qu'on doit encore faire et toujours. Mais non, je pense pas que ce soit très pertinent, non.
Et encore toutes les raisons pour s'accrocher. Alors, une dernière question à chacune d'entre vous, parce qu'on arrive près de la fin de cette émission. Question, en fait, posée indirectement par Rolande. Elle est infirmière à l'hôpital Cochin à Paris. L'après-Covid, demain, quelle vocation d'infirmière ? Est-ce qu'il y aura plus de jeunes qui auront envie d'embrasser votre profession ? On l'écoute.
Bonjour, je suis Rolande. Je suis infirmière à Cochin depuis 26 ans. Et j'avais une interrogation, mes collègues infirmières aussi ont la même interrogation. En fait, les écoles d'infirmières ne font plus le plein depuis quelques années. Et je me demandais si cette crise allait faire naître chez certains une envie de faire ce métier, car c'est un métier dernièrement qui a été très médiatisé, très valorisé par les médias. Ou alors, ça allait faire le contraire, voire pire. Pour ceux qui avaient un semblant de motivation, ça a révélé chez eux la réalité du travail, les horaires, les salaires, les conditions de travail et surtout l'exposition aux maladies et le risque de contracter justement une maladie. Chose qu'on ne pense rarement en choisissant ce métier. Merci.
Alors, dernière question sous forme de conclusion, une minute pour chacune d'entre vous sur cette fameuse relève, la jeune génération. Demain, un lycéen, une lycéenne vient vous voir, il est en train de choisir son orientation, il vous dit « je veux faire l'école d'infirmière ». Qu'est-ce que vous lui répondez, Alexandra Veloso-Sa Pereira ? Vas-y ou fais autre chose ?
Alors, déjà, je lui explique que ce n'est pas une école, c'est une université maintenant, la formation infirmière.
Mais c'est un peu la vieille expression qu'on a gardée.
Oui, c'est bien. Mais je pense que c'est important quand même de mentionner que voilà, c'est plus une école, on n'est plus non plus chez les bonnes sœurs, c'est une formation universitaire maintenant. Ensuite, qu'est-ce que je lui réponds ? Moi, je lui réponds oui, vas-y, parce que voilà, c'est peut-être bisounours, mais pour moi, ça reste le plus beau métier du monde et je ne dirai jamais non. Alors, effectivement, il y a des choses à prendre en compte. Il y a la vie personnelle qui peut être un peu chamboulée, effectivement. Mais non, je dirais toujours d'y aller, ouais.
D'y aller, vous, France, si autour de vous, on imagine une cousine, une voisine arrive et dit « Est-ce que je dois y aller ? » Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Alors, je vous dis honnêtement, on a eu plusieurs fois le cas. Et quand les gens nous disent « Ah, j'aimerais être infirmière », la première réaction était de dire « Mais t'es complètement barjot ». parce qu'en fait, en réalité, les gens s'imaginent que c'est comme à la télé, hein, toutes ces séries.
Avec des magnifiques médecins qui vous séduisent,
ouais,
dans les couloirs.
Ça,
non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Non.
Des chambres vulgaires, des compagnies, quoi. mais non, franchement, il faut pas leur cacher la vérité. Mm-hmm. C'est un très beau métier, et clairement. Moi, je suis fière de ce que je fais. J'en aurais pas envie d'en changer. Mm-hmm. Mais clairement, il faut quand même leur expliquer ce qu'il en est de cette réalité. Pas à sortir de l'école et dire « Attends, mais c'était ça, on n'a pas de matériel, on n'est pas valorisé. » Voilà, qu'il n'y ait pas de surprise. Il faut savoir tous les inconvénients qu'il y a aussi dans ce métier. Mais après, il y a une belle part aussi de bonheur et de satisfaction. Mais je pense qu'il faut pas cacher les choses et clairement leur dire ce qu'il en est honnêtement de ce métier. En tout cas, moi j'aime mon métier. Mais j'attends juste qu'on nous file un petit coup de pouce pour prendre soin de nous maintenant.
On sera bien là pour attendre ce coup de pouce d'Delphine Leclerc à la jeune génération. Vous lui dites quoi ? Il vous reste une minute.
D'y aller, et forcément, c'est un, et là, j'encadre dans l'équipe Covisan des jeunes infirmiers, mmh, et qui ont une révélation en eux, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont là, ils sont bénévoles parce que les IFSI actuellement, sont pas réouvertes, les instituts de formation de soins infirmiers, mmh, donc ils sont là, ils sont bénévoles, ils sont volontaires, ils se donnent à fond. Et moi qui avais effectivement des fois pas découragé, mais en disant effectivement c'est un métier quand même, c'est difficile, au bout de 30 ans, voilà, on est épuisé un petit peu, et puis ils sont là pour nous rebooster, et voilà, ils nous donnent ce courage, et puis ils sont merveilleux. Alors effectivement, chacun a sa motivation de faire ce métier-là, mais en tout cas avec la petite équipe là que je travaille, je vous assure qu'ils ont la peste, et en tout cas ils nous donnent encore envie.
Et leur aide a été extrêmement précieuse, hein, comme celle des étudiants en médecine. Ils ont été vraiment très, très présents.
Merci beaucoup. Et heureusement, ils sont là. Moi, les internes, les externes et les étudiants, heureusement, ils sont là. Ils sont bénévoles parce que nous, effectivement, on est peut-être volontaires de travailler dans ce secteur Covid. Mais nous sommes payés que eux, effectivement, pour l'instant, ils touchent les dalles. Eh bien, en tout cas, je leur dis un grand merci, comme à toutes les infirmières et les médecins aussi. On a fait un sacré boulot ensemble, et c'est cette cohésion d'équipe qui a été importante. Et tout à l'heure, une infirmière, je ne sais plus, je crois que c'était 2012, disait que voilà, c'était ce réconfort vis-à-vis des collègues. Ben oui, heureusement.
Et heureusement qu'il y a ce lien. Heureusement qu'il y a ce lien. Heureusement, et on vous dit merci, comme on l'a dit tous les matins en début de cette émission. Mot de la fin pour Gérard au Bénin. On vous tire un coup de chapeau. Sans vous, les soignants, nous ne sommes rien. J'aimerais que cette pandémie serve de leçon pour nos dirigeants, pour qu'ils sachent enfin l'importance de cette profession. Merci à vous. Je vous appelle par vos prénoms pour conclure. Alexandra, Delphine et France. Et très, très bonne journée. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute notre équipe, à C'est Tout, Ophélie, Juliette, prénom là aussi, les deux Didier à la technique. Demain, vos questions sur l'hypertension et le diabète, deux maladies chroniques associées. Elles nécessitent un suivi régulier, une bonne hygiène de vie pour éviter les complications. On répondra à vos questions avec nos invités. À demain, d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.